comment chercher. Rentrant fort tard de la maison de thé, Nasreddin laisse tomber, devant le seuil de sa maison, l'anneau qu'il porte au doigt. Aussitôt, l'ami qui l'accompagne s'accroupit pour chercher à tâtons. Nasreddin, lui, retourne au milieu de la rue qu'éclaire un splendide clair de lune.
« Que vas-tu faire là-bas, Nasreddin? C'est ici que ta bague est tombée. »«
Fais à ta guise, » répond le Hodja. « Moi, je préfère chercher où il y a de la lumière. »
Il est super mignon, il est super malin, le pangolin, il arrive à faire baler tous les humains, le pangolin, il a pas de dents mais pas le scorbut, pangolin, pangolin, si tu le bouffes, il te bute, pangolin, pangolin, il a des écailles comme un serpent, pangolin, pangolin, mais c'est un mammifère comme ta maman. Pangolin, pangolin, il est super mignon, il est super malin, le pangolin, il arrive à faire baler tous les humains, le pangolin, il a la langue plus longue que son corps, pangolin, pangolin, lui sans lèche qu'il y ait des milliers de morts, pangolin, pangolin, même son nom il est trop choupi, pangolin, pangolin. C'est sûr, il y aura une série sur lui. Pangolin, pangolin. Il est super mignon, il est super malin. Le pangolin. Il arrive à faire baler tous les humains. Le pangolin.
C'est un menteur, un hypocrite et un fauchon.
Salut les petits cululus, c'est Pouldo. Et vous êtes bien sûr Radio Sans Nous. Jeudi soir, c'est scène ouverte. Tu peux envoyer ton son à radio.sansnous@cma-pdll.org. Et je compte sur vous pour foutre le feu.
Ok, eh bien on commence l'interview.
Radio Sans Nous.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Dans quelques minutes, votre journal. J'espère que vous aimerez ce nouveau journal.
Plus d'images, plus de dialogues, plus de reportages directs. Nous avons pris des dispositions pour que le journal devienne un miroir qui se promène sur toutes les routes de France et du monde.
Radio sans nous.
Radio without us.
Radio Bedonina.
A priori, ça concerne toute personne ayant des mains, un nez et une bouche.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Sans Nous et aujourd'hui pour notre tournée générale, émission généraliste, on est 7-6 à venir discuter avec vous et peut-être on peut se faire un petit tour pour se présenter.
Bah, y a Manu.
Voilà, il y a Régis, je sais plus où je suis confiné mais Régis.
Lolo.
Pascal.
Et JB.
Et Clos. Aujourd'hui, on voulait vous parler de deux points différents. On a un premier temps où on a envie de discuter un peu de et d'écouter des témoignages de ce qui peut se vivre dans des quartiers populaires, notamment autour de Nantes. Et du coup, on va s'écouter un petit témoignage et puis peut-être en discuter un peu. Et ensuite, il y a Pascal qui nous a rejoint aujourd'hui et Lolo pour discuter médias et libres suite à l'émission qu'on a fait l'autre jour où on parlait un peu de comment Facebook, Skype et compagnie sont les grands gagnants de ce confinement. Eh bien, peut-être on peut imaginer d'autres outils et d'autres fonctionnements. Et du coup, on va discuter de ça. Voilà un peu pour aujourd'hui. Et malheureusement, nous ne parlerons pas zététique aujourd'hui.
C'est triste.
Bah oui. C'est terriblement triste.
Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas zététique, Manu, aujourd'hui?
Parce qu'on n'est pas prêt.
Eh bien, voilà, on avait un petit son du Clotoro à écouter, il me semble.
Oui. Peut-être le présenter rapidement, mais... effectivement, alors c'est Clotoro, mais l'objectif c'est aussi de parler des quartiers populaires de manière générale, parce que ce qui se vit au Clotoro se vit très certainement ailleurs. Alors d'un point de vue zététique, d'ailleurs on s'est posé la question avec Manu, mais pour l'instant on n'a pas de réponse. Il y a des articles de presse qui parlent d'une mortalité plus importante dans les quartiers qu'ailleurs, et pour l'instant on n'a pas trouvé les chiffres qui permettent de le prouver, mais peut-être qu'on pourra revenir dans quelques jours sur cette question. Là, bien évidemment, l'objectif, c'est d'être parler du confinement, qui est forcément plus difficile. C'est plus difficile de le vivre dans un appartement sans balcon que dans une maison avec un jardin. Mais c'est aussi de parler, on pourra y revenir, parce que l'interview n'en parle pas trop, des contrôles de police. Hein, on a plusieurs témoignages de contrôles un peu complexes, de reproches des fois un peu... à la marge, vous avez oublié de mettre votre date de naissance, etc., qui se termine mal, ou pas très bien. Et puis, là, on en parlera plus dans cette interview, c'est l'effacement de services publics. Effectivement, si on prend le clos, la maison de quartier est fermée, la mairie de quartier est fermée, et que le seul lieu ouvert du quartier, c'est le Super U. D'ailleurs, c'est le Super U qui faisait les photocopies au début... pour les autorisations de sortie dans le cadre du confinement. Bon, bien évidemment qu'un supermarché se mette à faire cela, ça nous pose plein de questions. Et donc là, on va s'écouter une interview de Anne qui en tant que militante d'éducation populaire et en tant qu'habitante du quartier, avec d'autres, lance un certain nombre d'actions de solidarité, comme elle dit, de manière horizontale, c'est-à-dire sans faire appel à l'institution qui est de toute façon absente.
Radio sans nous, COVID-19.
Ok, eh bien on commence l'interview de Anne, du coup, hein, et là on est sur une interview autour de la situation des quartiers. Alors on va parler d'un quartier plus particulier à Nantes qui est le Clos, mais peut-être de manière générale les quartiers à Nantes et puis peut-être au-delà de Nantes. Donc première question, est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation en tant qu'habitante du quartier, comment tu vis, et puis habitante mais aussi militante de l'éducation populaire, comment toi tu le vis
Alors moi j'habite au Clotoro. En fait c'est assez intéressant de voir un peu tout ce qui se passe dans ce quartier. Depuis le début du confinement, on ne voit plus d'agents de la ville autre que la police qui tourne. Alors c'est pas forcément la ville d'ailleurs, là c'est l'État. Et autres que les jardiniers et ceux qui nettoient les halls d'immeubles une fois par semaine. Autrement, tout se passe en télétravail, tout se passe par téléphone ou par Internet. Ça met en évidence deux choses, la fracture numérique, il y a plein de gens qui n'ont pas Internet, et l'autre chose qui est le problème linguistique. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas les consignes ou qui sont perdus parce qu'ils n'ont pas de téléphone, qui ne savent pas tout ce qui se met en place. Face à ça, il y a heureusement des choses très intéressantes.
Alors, ce que tu poses, c'est un constat quand même qui fait débat d'ailleurs au-delà de Nantes, dans les centres sociaux, même à la Fédération des centres sociaux, qui a plutôt une position de, si possible, ne pas fermer. C'est-à-dire, bien évidemment, on ne peut pas faire l'accueil ordinaire, mais est-ce qu'il faut tout fermer? Du coup, les services et le minimum de liens sociaux nécessaires aux choses disparaît, quoi.
Bah oui, alors ce qui est fou, c'est que le seul lieu qui est ouvert, c'est le Super U qui est juste à côté, quoi. Et donc, c'est eux qui ont au départ distribué des attestations, enfin. Donc, ça pose aussi question, ça. Et la mairie annexe qui est juste à côté du Super U qui est fermée. C'est important de protéger les agents, mais en absence d'agents, qui est-ce qui fait le boulot? Finalement, c'est les habitants militants. Donc, voilà. Donc, moi, je suis contente, j'ai récupéré des masques, mais n'empêche qu'au début, bah, on allait voir les gens, on restait à 1m50, mais quand même, quoi. C'est nous qui avons pris les risques. Parce qu'on peut pas laisser des voisins dans le pétrin, quoi, tout simplement. On est humains. Et puis, bah, ce qui est intéressant, quand même, dans ce qui se passe, si tu veux, c'est que... Moi, ce qui me frappe, c'est que la ville, comme même les structures des centres socioculturels de Nantes, hein, l'accord pour pas le nommer, ils sont rentrés dans une logique très descendante. On s'adresse à nos usagers. C'est important de prendre des nouvelles des usagers. Mais moi, ce qui me paraît fondamental, c'est plutôt comment on peut organiser la solidarité à l'échelle horizontale. C'est-à-dire que même des gens qui sont isolés, ils sont en capacité d'appeler d'autres gens isolés. Ils sont capables de se rendre utiles. Et du coup, dans notre immeuble, par exemple, on a commencé en affichant dans l'ascenseur, et puis dans le hall, et puis on a développé ça sur tout le quartier du Clos Thoreau. Il y a une vingtaine d'immeubles, un panneau qui donnait le numéro d'urgence de la mairie pour proposer son aide et pour aussi pallier aux besoins, et puis qui proposait de l'entraide. Donc il y avait un panneau qui disait « Dans l'immeuble, il y a plein de gens qui peuvent... donner des coups de main. » J'ai donné quelques exemples comme prêter des bouquins, des DVD, nettoyer l'ascenseur, les boutons, faire les courses. Et puis il y a deux affiches, une affiche avec « Je peux donner un coup de main » et puis voilà, les gens écrivent, et puis une affiche « J'ai un besoin particulier ». Et en fait, très vite, c'est assez impressionnant, les gens proposent. Alors, les gens qui ont besoin, ils n'osent pas trop afficher ça devant tout le monde, et c'est tout à fait normal, donc ils vont plutôt aller s'adresser à des voisins. Mais il y a plein de gens qui se sont proposés. Et c'est des petites gens. C'est des gens qui ont des noms à consonance d'Afrique subsaharienne. Là, je pense à une dame dans un immeuble où voilà, on avait affiché ça sans avoir de personnes référentes qui pouvaient organiser cette solidarité. Et ben, on a une Fatoumata Diallo qui a écrit « Moi, je peux nettoyer l'ascenseur ». Voilà. Donc, mais je trouve qu'il y a quelque chose de super important qui se vit. Tout à coup, il y a des gens qui prennent conscience, peut-être, ou qui redécouvrent le fait qu'on peut s'entraider sans passer par une structure, quoi.
Oui. Donc, du coup, c'est un effet positif, pas forcément qu'on avait pu anticiper de la situation. Tu peux peut-être citer d'autres exemples de solidarité, je pense à la question de la MAP en particulier.
Alors, je pensais quand même à autre chose par rapport à la problématique linguistique. C'est quand même hallucinant, dans tous les halls d'immeubles, il y a eu un affichage. Alors, est-ce que c'est le bailleur social, donc Métropole Habitat, ou est-ce que c'est la ville qui l'a fait mettre sur les mesures barrières, mais uniquement en français. Moi, je suis dans un immeuble de 10 étages où il y a 13 nationalités, ça fait à peu près grosso modo 7-8 langues. Bon, bah, ça faisait 20 jours qu'on demandait un affichage dans plusieurs traductions. Et heureusement, les CMA, là, pour le coup, vous avez donné un coup de main. Alors, on est facilité par le fait qu'on est à proximité géographique. Mais vous avez imprimé. Ça faisait 20 jours qu'on l'attendait. Et du coup, avec un militant CMA, on est allé afficher dans tous les halls d'immeubles. Et du coup, ouais, des solidarités qui se mettent en place. Bah oui, dans les logements sociaux, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bagnole. Il y a des gens âgés, isolés. Donc, pour les courses, c'est compliqué. Il y avait un panier solidaire qui était mis en place par l'accord tous les 15 jours. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, le petit producteur, là, puisque c'est eux qui sont impactés, finalement, tous ceux qui vendaient sur les marchés ou dans les circuits courts et qui n'ont pas forcément de contrat avec les grandes surfaces, se sont retrouvés le bec dans l'eau. Et ça a été pas mal diffusé sur les réseaux sociaux. Il se trouve que je connaissais le petit producteur des Sorinières. Je l'ai appelé. Il m'a dit, bah, j'ai reçu un mail disant qu'on pouvait plus livrer tous les 15 jours. Mais il était OK pour faire une livraison. Et donc, on a commencé à mettre en place une livraison en mettant dans les boîtes aux lettres cette proposition avec tous les tarifs et puis une organisation de collecte par immeuble, quoi. Et du coup, bah, le premier panier qui s'est fait il y a une semaine, on a eu 16 paniers, donc 15 de gens d'habitat social, 15 sur 16. Et là, il y en a un prochain, il y a aussi 16 paniers, non, 19 paniers, pardon. Et là, pareil, il y a 15 personnes d'habitat social. Et en fait, c'est des prix qui sont moins chers qu'au Super U. C'est de l'agriculture raisonnée, il y a des trucs bio. Et le côté très positif de ça aussi, c'est que ça casse le plafond de verre de beaucoup de gens qui pensaient que le panier de légumes, c'est pour les gens qui ont de l'argent, quoi. Avant, le panier de légumes, il était dans la maison de quartier. Il n'était pas visible.
Et là, le panier, il est posé au milieu du quartier.
On l'a fait au milieu du quartier. On a dit, le producteur, il a dit, moi, j'arrive, je dépose, je repars, parce que voilà, faut pas que ce soit un marché. On a dit aux gens, on sera vraiment très éloignés les uns des autres. Il les prépare en amont, ça lui demande du boulot. Il met les noms sur les sacs, et puis il organise les sacs par rue, et puis après les gens passent, quoi. Et en fait, ce qui était super marrant, c'est qu'il y a des gens qui étaient aux fenêtres, et puis on n'avait pas eu le temps de passer dans tous les immeubles, et du coup qu'on dit, bah moi j'en voudrais bien, et du coup, voilà, de leur dire, bah oui, organisons-nous collectivement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Si tu veux, avant, le panier de légumes dans la maison de quartier, j'avais observé qu'il y avait 15-20% des gens seulement 15-20% des gens qui étaient du quartier. C'est-à-dire que les autres, c'était des gens qui fréquentent la structure de quartier, qui font partie d'associations, qui ont vu l'aubaine et puis qui en profitent, et c'est très bien. Mais alors que là, l'autre fois, et puis la fois prochaine, bah, on va avoir entre 90% et 85-90% des usagers de logement social. Ça, c'est génial.
Ce que tu renvoies, en fait, c'est bien évidemment, il y a besoin de se confiner aujourd'hui pour ralentir la maladie, parce que ça n'empêchera pas que... Une fois que le déconfinement sera fait, la maladie va revenir, hein, donc il y aura forcément un rebond, mais il sera moins violent, en tout cas c'est le but. Mais sans remettre en cause ça, ça veut dire quand même qu'il y a des mesures qui sont prises qui sont contradictoires, c'est-à-dire qu'effectivement on peut faire des choses en respectant les gestes barrières, en respectant les choses, et en ce moment ça se cause beaucoup à Nantes, et d'ailleurs toutes les villes ne l'ont pas fait, c'est la fermeture des jardins.
Oui, alors il y a des jardins ouvriers, hein. Toi on disait au jardin ouvrier, aujourd'hui on dit jardin partagé, on en a un au Clotereau qui est à 10 minutes à pied, mais il y en a, je ne sais plus combien, à Nantes, enfin, il y en a quand même un bon paquet, et qui sont souvent pour des usagers de logement social, mais pas que, il y a une mixité sociale qui se vit dans ces jardins partagés. La ville de Nantes a pris une mesure drastique, comme elle a fait pour les marchés, elle a tout interdit, tout fermé. Ça a des conséquences pour beaucoup de voisins, moi c'est des voisines notamment qui m'ont alerté en me disant, moi j'ai eu des larmes au téléphone, des gens qui parlent à longueur de temps de leurs semis à faire et de leurs plants qui sont en train de cramer sous leur serre. Et du coup, on a fait remonter comme ça des témoignages de terrain, et puis il y a une mobilisation qui est en cours, quoi. Mais pour montrer, enfin, les jardins, le jardinage, c'est pas que un hobby, quoi. C'est pour beaucoup de gens, notamment en logement social, c'est un appoint économique. C'est une alimentation saine, mais c'est un appoint économique.
Oui, c'est-à-dire que effectivement, la question des besoins sociaux, des besoins de relations sociaux, la question du sortir, bien évidemment, elle existe pour tout le monde, mais elle est encore plus forte. Effectivement dans les quartiers populaires, dans les quartiers d'habitat social, c'est ce qu'on disait, certains donnent des leçons comme Hirsch, etc., et d'autres il y a quelques jours, mais c'est vrai que c'est certainement plus facile quand on a un 300 ou 400 mètres carrés avec un jardin que quand on est...
En fait, ce qui est intéressant aussi, depuis le début du confinement, on se prend en pleine poire les inégalités sociales quand on est en logement social. Les dominés, ils voient toujours les dominants, hein, mais les dominants, eux, ils dominent, ils sont entre eux. Et là, ce qui est assez emblématique, c'est que tous les gens majoritairement qui prennent les décisions, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la ville, c'est pas des gens qui habitent en logement social. Et ce qui est frappant pour les jardins partagés, notamment, c'est que ça a été décidé comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de concertation avec les responsables des associations de jardins, de jardiniers, c'est des fonctionnements associatifs, qui, eux, proposent des solutions. Parce que, par exemple, à la Crapaudine, il y a un souci, effectivement, c'est que les parcelles, c'est 8 parcelles ensemble, donc qui sont pas séparées par un enclos. Donc, évidemment, il faut peut-être organiser pour que les gens viennent pas à la même heure. Mais moi, les personnes qui m'ont fait remonter leurs soucis, elles me disaient à quel point elles faisaient attention. C'est des gens, par exemple, il y a deux personnes de 70 ans, là, qui sont portugaises, qui ne vont pas faire leurs courses. On leur amène leurs courses. Elles vont pas dans les nids à microbes. Leur seule respiration quotidienne, c'était de faire leur jardin. Elles faisaient ça qu'une heure. Et paf, elles peuvent plus. Enfin, c'est vachement violent comme manière de faire, de procéder. Et il y a quelque chose quand même qui est assez terrible, c'est que on est quand même très infantilisé, quoi. On pense à notre place en permanence et nous ne sommes pas des gens responsables. Par contre, il n'y a aucun problème pour aller faire ses courses dans les grandes surfaces qui sont des vrais nids à microbes. Donc voilà, il y a des injonctions complètement contradictoires et qui posent question.
Ok. Est-ce que tu as d'autres éléments à rajouter? Je pense qu'on a fait un tour rapide.
Ouais, c'est rapide, mais il y a aussi d'autres problématiques qui sont quand même pas mal médiatisées au niveau national, qui sont les problématiques liées au fait de vivre H24 avec les mêmes personnes dans un petit espace, tout ce qui va être de l'ordre des violences. Alors, il y a les violences conjugales ou les violences aux enfants, qui existaient déjà avant, mais il y a aussi des gens qui perdent patience. Et du coup, voilà, c'est aussi empêcher les gens de sortir quand on n'a pas d'espace autre que son 70 mètres carrés à 4, eh ben ça pose question. Donc voilà.
Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone.
Alors qu'à Paris, les drones parlent aux gens dans la rue, nous on préfère vous parler en direct sur Radio Sans Nous.
Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone. Restez chez vous, vous ne pouvez pas rester sur cette zone.
Cet épisode de Black Mirror, putain, qu'est-ce qu'il est anxiogène.
Putain, c'est des codes, mec, le PQ, je le vois en première merde.
Putain, t'es trop con, remets ton masque.
Cet épisode de Black Mirror, putain, qu'est-ce qu'il est anxiogène.
Parce que tu vois, plutôt ces derniers temps, la Reine des Neiges, c'était plutôt, comment dirais-je, ces dernières années, c'était plutôt éborné, mutilé. Maintenant, ils ont trouvé un nouveau truc, tu vois, ils ont trouvé le truc, maintenant, c'est plutôt enfermé, confiné. Alors, puis toi, moi, je me dis qu'à un moment donné ou un autre, les gens ils vont sortir, alors maintenant, on pourra chanter ça à la chier, vraiment chier.
Épisode de Black Mirror, putain, qu'est-ce qu'il est anxiogène.
Et bien voilà, après ce petit témoignage, on avait juste envie de partager quelques petites réflexions avec vous. On se disait d'abord que il faut pas hésiter, si vous habitez dans des quartiers ou dans des lieux où il se passe des choses, à nous envoyer des témoignages ou à nous proposer de faire des interviews, nous envoyer des écrits, des sons, etc. Que nous, ça nous intéresse de diffuser ces paroles-là. et de pouvoir y réagir, etc. Et si vous avez envie de faire une émission sur vos quotidiens dans vos quartiers, n'hésitez pas à nous contacter sur radio.sansnous@cemea-pdll.org. Peut-être on avait aussi envie de réagir sur si vous avez besoin de photocopies, notamment des affiches de consignes et des attestations traduites en d'autres langues, et ben vous pouvez contacter les CMEA à Nantes. Pour le moment, peut-être assez rapidement aussi dans d'autres villes, mais en tout cas à Nantes, on peut vous fournir des photocopies. Voilà. Et puis JB, tu avais envie de parler aussi d'une autre initiative qui s'est montée en termes de solidarité concrète là sur Nantes et ailleurs.
Bah, il y a quelque chose alors qui s'est monté sur Nantes, mais qui a priori d'abord s'est monté sur Paris et qui nous vient tout droit d'Italie, qui sont les brigades de solidarité populaire. Du coup, ils se définissent comme pour une ou deux défenses sanitaires, et du coup un peu de l'auto-organisation. De travailleurs, travailleuses précaires, de chômeurs, chômeuses, et du coup qui taffent sur différents trucs, et ça peut être sur faire des maraudes et aller distribuer, mais c'est aussi une cagnotte qui est sur internet et qui permet de, bah, pareil d'acheter des trucs et puis de les redistribuer. Ils ont un Facebook, du coup Brigade de Solidarité Populaire, et pour celles et ceux qui vont sur le blog, notre blog, il y a une interview qui présente un peu les brigades. Voilà.
Et pour les personnes qui ne souhaitent pas aller sur Facebook et qui n'ont pas Facebook, leurs informations sont aussi relayées sur Indie Media Nantes.
Ok. Eh bien, peut-être qu'on passe au deuxième sujet de l'émission. Merci, Clo. Et donc, dans cette période de, on va dire, de confinement, de fait, on a la question de l'éducation qui se passe à distance, que ce soit dans les écoles, collèges, lycées, universités, mais aussi sur la formation professionnelle, avec deux questions qui se posent. Et aujourd'hui, on va aborder un des aspects, pas l'ensemble des aspects, mais il y a deux, enfin en tout cas, on a identifié deux axes, et qui le deuxième fera l'objet d'une autre émission. Le premier, c'est les supports qu'on va utiliser numériques. Lesquels on prend, pourquoi, qu'est-ce que ça impacte. Et puis le deuxième, c'est la question de la formation et de l'éducation à distance. Qu'est-ce que ça génère, et avec aussi une inquiétude qu'on pourrait généraliser en disant bah, peut-être qu'on n'a plus besoin de présentiel, etc. Donc là, on va aborder le premier point, la question plutôt du numérique, avec deux personnes qui sont présentes pour en parler. Pascal et Lolo, je ne sais pas, peut-être que dans un premier temps, vous pouvez vous présenter.
Je démarre, si Lolo ne démarre pas, alors.
Ouais.
Comme Dieu veut, moi je vais y aller.
Donc Pascal, je suis chargé de mission autour du libre et de l'éducation nouvelle à l'Association nationale des CMEA.
Et Lolo, moi je suis en coordination des actions médias numériques au CMEA en Pays de la Loire.
Voilà, alors quand Pascal disait je commence, mais c'est pour rappeler quand même aux gens qui nous écoutent, c'est qu'on n'est pas dans le même lieu, on se voit pas. Donc effectivement, c'est toujours difficile de savoir comment on donne la parole. Et est-ce que dans un premier temps, là, dans ce qu'on observe aujourd'hui depuis le confinement, quels risques vous repérez, vous, autour du distanciel, et quels sont les risques un peu dans comment le secteur marchand et du numérique pourrait s'en emparer? On avait cité Skype et Facebook en intro de l'émission, mais un peu quels sont les risques et qu'est-ce que vous observez?
Moi, je veux bien peut-être sur l'observation. Alors dire, en fait, c'est ma vision depuis mon confinement et du coup des échos que j'ai pu glaner un peu d'ici de là. C'est probablement partiel, enfin, c'est une partie des réalités. Moi, peut-être venir aussi sur ma pratique du confinement, parce que c'est assez particulier. Moi, je suis déjà usager de certains outils, et déjà peut-être certaines logiques, dues à ma pratique du métier, à mes missions, etc., et à ma pratique perso aussi. Et pour autant, je l'avais jamais vécu à cette cadence-là, et pas avec autant de personnes. Et du coup, c'est un comble, peut-être en période de confinement, mais en fait, j'ai jamais eu autant d'interactions sociales avec des personnes qu'aujourd'hui. Et d'habitude, bah, je suis quand même plutôt casanier, ou en tout cas, ça peut me faire plaisir d'être seul à des moments. Et là, c'est assez compliqué d'être seul à des moments. Et je trouve que du coup, ça peut être un formidable élan pour des pratiques collaboratives et pour l'appropriation des outils par les personnes, même si, de fait, une formation accélérée, contrainte et exclusivement à distance, comme tu disais, Régis, c'est bien évidemment pas le plus pertinent. Ça, c'est pour poser un peu, moi, où j'en suis, et ma pratique. Et après, par rapport à moi, ce que je peux observer, entre autres, des structures que j'accompagne, des personnes avec qui je suis en lien, moi, je repère un réel décalage là, entre les personnes qui ont déjà une pratique, qui avaient déjà des outils qui vont bien, et une connaissance, et les autres personnes qui n'ont pas d'outils, qui n'avaient pas de connaissances, voire qui n'ont pas de connexion. Et beaucoup de personnes en galère face à certains besoins, et le corollaire en outils numériques de distanciation sociale. Il y a eu, moi je trouve, une forme de speed, de nouveauté, de se dire, bon en fait, comment je fais, qu'est-ce que je fais, je suis pris au dépourvu, vers qui je me tourne, sur qui je peux m'appuyer. Et souvent, c'est de s'appuyer sur des outils qu'on connaît et des pratiques numériques qui sont très souvent des pratiques numériques mimétiques. Donc WhatsApp, Facebook, même Skype aussi, etc. Voilà, et souvent, les personnes, alors on en pense qu'on en veut, hein, mais ne se posent pas de questions parce que c'est rassurant et puis tout le monde est sur ces outils-là. Et souvent, on n'a pas forcément la connaissance de comment fonctionnent ces outils, à qui ils appartiennent, etc. Et du coup, pas forcément de questions.
Est-ce que Lolo, tu peux monter un petit peu le son de ton micro pour un point technique, ou parler plus fort ou plus près de ton micro. Merci.
En attendant, peut-être que Pascal, tu peux.
Oui. Vas-y. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites par Lolo. C'est oui, on s'est pris en pleine face, mais c'était évoqué dans le reportage précédent, ce qu'on appelle la fracture numérique. Là, pour le coup, il y a ceux qui, d'une part, sont déjà équipés et ceux qui ne le sont pas. Et dans ceux qui sont équipés, il y a le niveau d'équipement. Tu posais la question là de ce qu'on appelle la continuité pédagogique, mais quand il y a un ordi à la maison et qu'il y a trois frères et sœurs, plus les parents qui eux aussi sont en télétravail, on a beau être équipé, on a beau être connecté, il faut pouvoir accéder à l'ordi. Donc ça, voilà, il y a déjà ça qu'il faut absolument prendre en compte. Et puis clairement, personne n'était préparé à cette histoire-là. Donc, et comme on vit, alors ça, on va s'en parler dans l'échange, mais dans un monde numérique qui est complètement centralisé, y a pas mal de choses qui ont explosé dès le début, notamment les outils, alors qui sont pas forcément les outils institutionnels de l'éducation nationale, mais les ENT dans des collèges et lycées qui n'étaient pas du tout prévus pour supporter un tel choc de connexion. Donc voilà, la première semaine a été particulièrement chaotique, et ça a produit ce que Laurent expliquait, c'est-à-dire qu'il y a ça a aussi été la ruée vers il faut que je puisse communiquer, donc vers quoi je me tourne. Et là c'est la fête à, alors j'ai l'habitude de dire que c'est la fête de la data en ce moment. Tout le monde s'est tourné vers les outils les plus communément répandus qui posent problème. Enfin, vous en avez parlé dans une autre émission. Et vers des outils qui n'étaient pas du tout adaptés là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'enseignants qui, les gamins ont pris la main et ont dit à l'enseignant de venir sur Discord, qui au départ est prévu pour fonctionner sur une plateforme de jeu en ligne. Donc des enseignants se sont retrouvés sur ce genre de plateforme. Voilà, petit à petit, c'est en train de rentrer dans l'ordre.
Mais en tout cas, dans un premier temps, ce que tu dis, Pascal, c'est que c'est le secteur marchand qui a été utilisé et qui a utilisé cette période de confinement. Ben, je regarde l'action Facebook. Oui. L'action Facebook, je l'ai devant moi, elle augmente ce mois-ci.
Oui, complètement. C'est du bonheur ce qui est en train de se passer pour ces plateformes-là. Encore une fois, elles sont gratuites uniquement parce qu'elles utilisent les données qu'on met dessus, enfin, nos graphes sociaux, etc., pour ensuite revendre ça à des commerciaux qui vont en faire la pub. Ça, c'est la version, je dirais, la plus tranquille. La plus flippante, c'est le profil qui est dressé de chacun d'entre nous, si on est sur ces plateformes. Et notamment, ce qui les intéresse le plus, c'est le graphe social. Et là, pour le coup, on est tous en interaction les uns avec les autres. Donc c'est un bonheur de voir qui cause à qui, où est telle personne. Et ce sont celles qui ont tenu le choc. Parce que, y compris les plateformes libres, alors là, on ne peut pas ne pas parler de Framasoft qui depuis des années propose montre que des alternatives aux outils de ces plateformes, enfin des GAFAM sont possibles, mais insiste sur le fait que surtout on ne veut pas devenir le nouveau Google, et l'internet n'a de sens que s'il est décentralisé, c'est-à-dire si les services sont répartis partout. Et il y a des outils qui sont prévus pour ça. Typiquement, là en ce moment, on est sur une plateforme de visioconférence que vous avez installée, qui s'appelle Jitsi, qui peut être installée à plein d'endroits. On n'est pas sur le serveur de Skype ou sur le serveur de Zoom. Zoom, c'est une autre entreprise qu'il faut vraiment regarder parce qu'elle pose de vrais problèmes et elle est utilisée par plein de gens.
Tu peux en dire un peu plus de Zoom ?
Zoom, c'est une boîte qui fait de la visioconférence, qui le fait très très bien. Ils ont un outil qui fonctionne nickel. Le problème, c'est que et donc ils ont proposé l'accès gratos, je crois, pour des visioconférences de 45 minutes. Sauf qu'ils absorbent toutes les données, mais vraiment toutes les données, que c'est rebalancé chez Facebook au travers des applis que les gens utilisent. Enfin, en termes de préservation de notre vie privée et de nos données, c'est une vraie catastrophe. Et tout le monde, énormément de gens sont allés dessus parce que c'est une plateforme qui répond aux besoins immédiats de la visioconférence. Et dans le même temps, les outils alternatifs comme Framatalk, que propose Framasoft, sont tombés parce que les personnes qui étaient un petit peu averties se sont dit qu'il fallait pas aller sur ces outils commerciaux qui étaient en vogue, mais se sont tous rués sur le même, et ça provoque ça a fait que Framasoft, ils ont été en galère. Il a fallu qu'ils changent de serveur dans le week-end et qu'ils renvoient. Alors ça, c'est un site qu'on peut renvoyer sur ce qu'on appelle les chatons. Les chatons, c'est le collectif des hébergeurs associatifs transparents, ouverts, neutres et solidaires, qui regroupent des associations, des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui proposent des services gratuits ou parfois payants, mais en tout cas éthiques, qui respectent un cahier des charges très strict sur la vie privée. Et donc sur Entraide, je vérifie si c'est au pluriel. Non, Entraide au singulier .chaton au pluriel .org. Vous pouvez trouver tout un tas d'outils de rédaction collaborative, de visioconférence, dans lesquels vous risquez pas de perdre votre vie privée.
Ok. On va faire une petite pause. J'ai pas entendu la fin de l'intervention parce que j'ai disparu de la. Je me suis déconnecté, hein. Mais je pense qu'on a préparé un petit son pour un peu aérer et reprendre l'interview par la suite. Là.
Radio. Sans doute.
لأن الكل محتاج فن أنا مش بس بنت أنا بمثل الوطن أنا مربوط بحب الأفكار بحب مشاكل شعبية بيش صعب وقف الغضب صوتك طرب لكل العرب بلشت الراب بدون أي عتاب صعب وقف بعد ما فتحت الكتاب تغيير مش رح يصير بلا طورة أنا مسكت البيت عشان أضل من جواتي حرة مشيت بطريق فيش له أي رجع لما صوتي يروح بضل غني عبرة ليش تسأل توصلش حدودي أنا وجودي حديدي للأبد أنا مش رقم أنا مش عدد أنا البقاء على الأرض مدد
All I need in this life is to be free from its cage but I need a key the key for a life yeah waiting for me if only you've seen what my eyes still see
problems after problems that in poverty identified with the identity. I'ma fight for my country till eternity under the name of justice and humanity. I wanna live, I wanna learn, I wanna be successful, even if it's stressful, just to stay alive. Life, I am grateful. I'm right here, and that's what I rap for. All my life, I've been paying the perfect prices, dependent on luck, so I'm just throwing dice. Years pass by, and I'm living lifeless. This is how my life is, this is not how life is. وجودي ما بضرك، أربع المكيف تاخد كل حقوقك، تعيش النظر تشتغل تعرف شو قيمة حياتك. أنا دو أجاعك، أنا الوطني الجميل، بعد ما تكونك كل أوطانك، الحنان والأمان بعطيك. طريق لدربك الحل للمشكلات لما تتربك. المرأة مش دائرة مفرغة، هي الضوء وقت العتمة، الحل وقت الأزمة، الأخت الحنون، الأم اللي بتكون طبيبة، صديقة، الفنانة، المبدعة، القائدة، القاعدة للتجدد. مش ضلع قصر، هي تصحيح الضلوع، حوا تبني عالمها، حوا هي قوة، مريمية النخاع، صلبة العود.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة. تسألني عن الحرية زي اللي بسأل الشمس على البرودة. قبل ما تسألني عن الحياة اخرجني من تابوتي، اعطيني المجال ليصرخ صوتي. الحرية دواء للأوجاع، غذاء للجياع، مفتاح لأفواه تتقيد، إفراج لعقول تستعبد. مش كلام مقدس بأقدم تتدنس، حريتي موجودة كتبك مقصودة من حياتي. أنا مش ملفت على المكاتب ولا جندر، أنا بشر ولو لمرة. تتذكر الحرية مش إنك تخيرني بالطريقة اللي فيها تستعبدني، تجبرني على عمل شيء وتستعملني وقت اللي بدك تكسبني، وقت اللي بدك تقمعني، بس بقول لك لا.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
رغم كل القيود
من جواتي حرة، من جواتي حرة.
Vas-y.
Eh bien, peut-être pour redémarrer, on avait une petite remarque. Alors, il y a eu une remarque sur le chat que je vous lirai après. Et puis, juste une petite info aussi, que Framasoft a quand même lancé un appel à l'éducation nationale pour qu'elle n'utilise pas ces outils, en disant, bah, en fait, vous êtes sympa là, mais vous êtes en train d'utiliser toutes les suites Frama, et alors que vous avez les moyens de payer des personnes pour développer des outils qui vous appartiendrait, et du coup là vous privez d'autres personnes, vous surchargez les serveurs et vous privez d'autres personnes de ces outils là. Voilà.
C'est une première remarque.
Ouais, et du coup il y a aussi une remarque sur le chat d'une personne qui s'appelle Deloin qui disait bah peut-être on s'est aussi précipité à communiquer sans s'interroger sur le sens de communiquer et sur avec qui on communique et pourquoi on communique et avec quels outils, etc.
Alors, est-ce qu'il y a une réaction à ces deux remarques différentes? Mais
je veux bien réagir aux deux. Sur la première concernant Framasoft, c'était vraiment dans la logique de ce qu'ils essayent d'expliquer, enfin de ce qu'on essaye, y compris nous là au sein de la mission libre des CNA, de la nécessaire décentralisation des services. Si on veut échapper à la puissance des GAFAM, sont les seuls à pouvoir se payer des serveurs qui tiennent le choc. Et même là, Netflix est obligé de réduire, par exemple, la qualité de ses vidéos parce qu'il y a trop de monde dessus. Donc, on ne peut tenir que si les services sont décentralisés, répartis dans plein de serveurs. Typiquement, là où Framasoft intervenait, c'était sur les pads, qui étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisés par l'éducation nationale, en disant ça n'a pas de sens. On est une asso, on peut pas encaisser 700 000 pads de l'éducation nationale. Il faut les répartir ailleurs, et l'éducation nationale a normalement les moyens de s'ouvrir des serveurs. La bonne nouvelle, c'est que ça a été entendu. Alors, ils n'ont pas fait pour les pads, mais fin de semaine dernière, il y a des instances Peertube qui ont été installées dans toutes les académies, et des instances GT qui sont installées aussi un peu partout. Donc l'éducation nationale a chopé le message là. Il est en train de se passer des choses. Voilà. Ça c'est la nécessaire décentralisation du net et là en tout cas cette partie-là elle est en passe d'être gagnée avec l'institution. Et puis sur la remarque du chat, ouais clairement en fait on essaie de reproduire ce qu'on faisait dans la vie non virtuelle ou non dans le numérique, dans le réel. Autant faire une visioconférence à 2, 3, 4, 5, 6, ça a vraiment du sens. Et encore faut-il qu'autour il y ait des outils collaboratifs. On pourra peut-être en parler tout à l'heure de la conception de ces outils, parce qu'un outil c'est pas neutre. Hein. Il y a du code dedans et de l'intention. Mais aussi, enfin, je sais qu'il y a des grands groupes ou des partis politiques qui font des réunions à 200 en visioconférence. Donc c'est plus de la visioconférence, on a les micros fermés et on écoute juste ce que quelqu'un est en train de dire. C'est extrêmement descendant. Et la personne aurait pris soin d'enregistrer ça sur une capsule vidéo et la mettre à dispo. Ça revenait au même. Il n'y a plus d'interaction possible. Donc quel est l'intérêt d'utiliser un outil interactif si c'est pour transformer en un outil presque en télévision, quoi. Il faut qu'on prenne le recul sur tout ça et comment on se sert de ces outils.
Okay. Après, peut-être revenir, je me permets, mais sur les observations que moi un peu j'ai pu effectuer, les retours des personnes là, de se dire aussi c'est nouveau, donc de fait il y a pas mal de personnes qui bricolent, pas mal de personnes, alors je sais pas, faudra aller vérifier hein, s'il y a eu une réelle course à l'équipement là de casque, micro, etc. Mais des personnes qui se disent, bah, j'ai tel et tel besoin, faut que je prenne des nouvelles d'une personne, j'aimerais bien avoir des photos de tel autre, j'aimerais entendre une autre. Et du coup, je vérifie mon matériel, je me rends compte que ça fonctionne pas, je sais pas comment faire, je bricole, je tâtonne. Voilà, il y a aussi ces trucs-là. Et donc, de fait, il y a, je pense, pas mal d'expérimentations, effectivement, avec cette limite-là de, on expérimente avec ce qu'on connaît dans un premier temps. Et avec le matériel qu'on a.
Mais de fait, l'isolement, que ce soit au niveau familial ou EHPAD ou autre, ont modifié forcément un certain nombre de pratiques, même dans la sphère privée. Il y avait des remarques, d'autres remarques sur le chat, je crois, Claude.
Tout à fait, il y avait une remarque, si. Il y avait des remarques sur le fait que Framasoft a aussi demandé aux entreprises en télétravail de ne pas utiliser leurs services, en rappelant que Framasoft, c'était bien une asso qui privilégiait de fournir ses services à des assos à but non lucratif.
D'accord.
Autre remarque, je vous le dis, parce que je crois que vous n'avez pas vu ma transmission. A priori, il y a des bruits d'oiseaux quand Pascal, tu parles, et c'est agaçant. On me dit sur le chat.
Alors, ça vient pas de moi.
Mais ça vient un peu de chez moi, donc je vais faire gaffe à recouper.
Alors, il y a quelqu'un qui doit fermer la fenêtre ou rentrer. Voilà. Quand tu as abordé la question des outils et du choix des outils, que c'était pas neutre, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ce que ça induit et de pourquoi tel ou tel choix d'outils? Alors, je dis Pascal, ça peut être le lot, hein, c'est pas.
Alors c'est pas neutre à plusieurs titres. D'abord c'est pas neutre. Il faut vraiment qu'on parte du principe les uns les autres que quand on se prépare à utiliser un service, un logiciel, enfin, notamment les services en ligne, on s'apprête à mettre nos données chez quelqu'un d'autre. Forcément nos données vont transiter par Internet, vont passer par un serveur. Et faut se poser la question de la confiance. Est-ce que j'ai confiance?
Stop, on n'entend plus à la radio, je sais pas d'où ça vient, je vais balancer une musique. Et là, ça fait une 30 secondes qu'on n'entend plus la radio, c'est peut-être de chez moi. Donc je vais déconnecter et reconnecter d'ici.
C'est Poule d'eau.
On va faire de la musique ensemble.
Sauf que là,
corbeille de fruits,
pas la radio, alors que dans
les gars, ils m'ont confinement.
Je vais voir pour enlever et remettre la connexion internet.
Le temps,
il y a l'ordinateur qui connecte.
Il y a aussi des pommes, elles sont un peu vertes.
Moi, on me dit qu'on nous entend à la radio sur le chat.
Quelques raisins secs. Bien sûr, ils sont dans un sachet. Sinon, il tomberait du panier.
Si, si, on nous entend. Eh bien, ça me permet de vous transmettre un petit message qu'il y avait sur le chat aussi qui disait, en même temps, c'est pas la même chose que ce soit les usages privés ou collectifs ou professionnels ou des assos dans la réflexion sur l'utilisation des outils.
Et aujourd'hui, on va faire un son très
particulier. Maintenant, il y a Pool d'eau, du coup,
on va mélanger info coronavirus.gouv avec la première vidéo d'instrumental.
Donc tu parlais dans le vide là, Claude, ou pas?
Bah je pense.
Et JB n'est plus là, c'est ça?
Non.
Vas-y, allô, là, il y a plus de son derrière, tu peux y aller.
Donc on reprend où?
Eh bien, on peut reprendre peut-être...
Non?
Ouais, sur ce que vous disiez.
Il y a besoin de tout reprendre ou ça passait finalement?
Je pense que c'est le délai de diffusion. Ouais. Je sais qu'on entendait encore, peut-être, non?
Mais est-ce qu'on reprend la question du démarrage ou...
On a entendu sur le choix des outils, du coup, vous pouvez repartir. D'accord. De là.
Ok. Et Lolo, il part à 13h30.
Oui, c'est ça, oui.
On vous écoute.
Ok, donc du coup on reprend l'interview avec petit souci technique, voilà. Mm-hmm. Et donc on était sur la question des outils, du choix des outils, de la question éthique, les outils.
Je parlais de la question de confiance en fait. À partir du moment où on va utiliser un service, notamment sur Internet, nos données, quelles qu'elles soient, que ce soit nos fichiers, que ce soit notre voix. Ça va transiter sur des serveurs et ça va être stocké à un moment donné pour à plus ou moins long terme sur un disque dur qui n'est pas le nôtre, qui est celui de quelqu'un d'autre. Et la question qu'il faut vraiment qu'on se pose, c'est est-ce que je fais confiance à ce quelqu'un d'autre? Est-ce que je fais confiance à Google? Est-ce que je fais confiance à tous ces gens-là? Et comment je peux m'assurer de ça? Il y a les conditions générales d'utilisation qui sont infernales à lire. Mais ça peut être aussi quand on installe une application sur son téléphone de regarder. Il y a Exodus Privacy qui fait un boulot phénoménal là-dessus et qui vous dit voilà, l'application t'installe, elle a tel et tel tracker, tel et tel, elle demande telle et telle autorisation. Est-ce que c'est acceptable ou pas? En tout cas, c'est prendre soin de se poser la question de est-ce que j'ai confiance en là où je vais mettre les outils, mes données. Ça, c'est la première question. Et puis l'autre, après, c'est est-ce que c'est adapté à mon besoin? Parce que souvent, les informaticiens, ils pensent pour nous et c'est à nous de nous adapter à la façon dont fonctionne l'outil. Il y a des outils qui sont plus ou moins adaptés à ce que l'on va faire. Donc c'est ne pas se contraindre et utiliser... Si on veut faire... typiquement, Régis, tu posais la question tout à l'heure des outils institutionnels ou autres. Ce qu'on constate avec le Zurich Decode, c'est autant la plateforme du CNED, ma classe à la maison, fonctionne, elle propose des parcours pédagogiques, etc., elle est pensée ma classe à la maison. Et elle reproduit, en tout cas, elle peut reproduire assez facilement des démarches qui sont des démarches, en tout cas, que... auquel on adhère moins dans l'éducation nationale, très descendante ou autre. Zurich permet a été pensé dans une logique travail collaboratif. Les élèves peuvent autant que l'enseignant créer une visio, créer un pad ou ce genre de choses. Donc c'est aussi prendre le temps de regarder quel outil on choisit pour l'appliquer à son besoin.
Ça veut dire que l'outil il induit de fonctionnement, il n'est pas neutre.
Il est pas neutre.
Il induit des modes de fonctionnement plus ou moins coopératifs ou plus ou moins centralisés.
Oui, oui. Lolo, vas-y, si tu veux.
Non, moi, c'est ce que j'allais dire, mais c'est Régis qui l'a dit, que c'est pas neutre. Effectivement, on n'a jamais été autant sollicité qu'en cette période-là. On a des propositions tous les jours. Mais effectivement, sans savoir qui est-ce qui propose des outils, combien ça va coûter si jamais il y a un coût, etc. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Est-ce que ces outils-là fonctionnent? Et la question des données, de se dire qu'est-ce qu'on fait de mes données. Voilà,
est-ce qu'on peut parler un peu des alternatives et entre autres du projet qui est développé autour de la map du numérique, Zurich.net?
Mmh.
Alors, les outils alternatifs, j'ai donné le lien tout à l'heure. Franchement, allez voir sur entraide.chaton.org. Là, vous avez tous les outils dont vous pouvez avoir besoin et il y a la garantie de l'éthique derrière tout ça. Et sur le projet à map du numérique dont tu parles, Régis, c'est Zurit. Je vais essayer de faire court. Au départ, c'est un outil qui a été pensé et conçu par et pour les CMA. Dans nos besoins associatifs. Donc c'était les besoins de toute association, du mail, de l'agenda partagé, des contacts partagés, du cloud, du pad et puis de la
visioconférence, de la vidéo.
Sauf que ce truc-là, donc ça a été développé en libre. Le code source de Zurit est disponible pour qui veut. Sauf que c'est pas juste un logiciel qu'on installe sur son ordi, c'est une usine à gaz qu'on fait tourner, c'est un serveur, c'est un vrai serveur derrière. Et une fois qu'on a utilisé OCMA, il y a pas mal d'assos qui nous ont dit ça nous intéresse. Et la réponse qu'on leur faisait, c'était, vas-y, c'est libre, prends-le, installe-le et puis fais-le tourner. Mais c'est compliqué de faire ça. C'est vraiment assez compliqué. Et du coup, la demande se transformait, mais vous pouvez pas nous héberger. Bon, dans un premier temps, la réponse a été non, parce que c'est pas la vocation des CMA d'être hébergeurs de services en ligne. Et puis, dans un second temps, par rapport à ce qu'on fait d'ordinaire, on intervient à plusieurs niveaux. On intervient auprès des usagers sur une éducation numérique. Et tout ce qu'on est en train de se dire là, on faites gaffe à ce que vous choisissez, etc. Et puis, on intervient aussi parfois auprès d'associations pour les accompagner dans leur fonctionnement, dans la démocratie interne d'une association, dans son projet éducatif. Et finalement, les outils numériques, ça fait aussi partie de tout ça, pour faire le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Mine de rien, les outils qu'on met en place et la façon dont on les organise, c'est aussi révélateur de la façon dont on a tout fonctionne. Et on s'est finalement décidé à passer le cap. On est donc devenu un chaton. On a demandé à rejoindre la communauté des chatons qui a été propulsée par Framasoft. Donc, cahier des charges copieux quand même. En s'associant, alors pour le coup, avec une toute petite entreprise de Saint-Joseph à La Réunion, mais qui est Jean-Noël est le développeur de Zurit, hein, c'est lui qui nous a accompagnés dans la conception de l'outil, en lui disant, est-ce que tu veux bien t'occuper de la partie technique, parce que celle-là, d'abord, on sait pas faire, et puis c'est pas notre centre d'intérêt. Donc on a l'assurance que des serveurs tournent, que les données vont pas être paumées, qu'elles sont sauvegardées, etc., par quelqu'un d'extrêmement compétent. Et puis, de l'autre côté, nous, on s'est mis à disposition des associations que ça intéresse, pour les accompagner dans la prise en main de cet outil global qui est Zurit. Donc c'est devenu un chaton, ça c'était tout récemment, en décembre. Donc il y a des assos qui nous ont contactés et qui s'équipent. Alors ça a un coût, hein, tout ça peut pas être complètement gratuit. On pourra prendre 1,40€ le gigaoctet par an, c'est vraiment peanuts. Et puis les CMA accompagnent l'association à prendre ça en œuvre. Et puis là, juste pour terminer l'intro, quand est arrivé le confinement, qu'on a été interpellé dans tous les sens sur qu'est-ce que je peux faire, où je peux aller, comment je peux faire. On a décidé, parce qu'on a les serveurs et parce que c'était aussi faire œuvre de solidarité dans un moment où ça devenait très important pour des petites assos ou pour des enseignants, ça a beaucoup circulé dans les réseaux ICEM et autres, on a proposé d'héberger gratuitement là sur un Zurit un peu restreint, parce qu'on n'ouvre pas de nom de domaine, là, je rentre pas dans les détails, mais au moins jusqu'aux vacances scolaires d'été, de disposer d'un espace Zurit pour pouvoir ne pas se ruer sur les outils dont on parlait tout à l'heure, mais mettre à disposition ces outils-là, et puis on verra ce qui se passe derrière. Voilà, ça c'est pour la présentation. Après, je pourrais parler de ce que de ce qu'on peut attendre de ça, de l'expérience qu'a la Réunion avec les collectivités locales et les assos. Mais pour répondre à la question, Régis, voilà ce qu'on est en train de faire nous côté côté CNA.
D'accord. Lolo, tu pars bientôt ?
Oui, c'est ça. Ouais, j'ai une réunion.
Tu vas peut-être ajouter quelque chose.
Je ne sais pas si je vais avoir le temps là dans le
dans les deux minutes qui te restent.
Ouais, je sais pas. Non, c'était. C'était peut-être de se dire au-delà des plateformes, peut-être évoquer, je sais pas si vous allez aller là-dessus après, mais de se dire des solutions là qui peuvent être proposées par certaines municipalités sous couvert de solutions technologiques qui sont vues comme palliatifs à la gestion de la crise. Voilà, ça se pose la question un peu de la présence accru de différents types de dispositifs de surveillance tels que les drones par exemple, et le fait d'essayer d'accompagner la population à légitimer un peu ces solutions techno là et voilà, du coup c'est d'aller au-delà de la question des plateformes, de se dire il y a d'autres outils, d'autres logiques et voilà, et en prenant l'exemple des drones par exemple.
Ok.
Et de la géolocalisation.
Et la géolocalisation, effectivement. Et puis, on peut parler aussi du backtracking, mais bon, je ne sais pas si vous allez là-dessus non plus. La solution là, qui est peut-être évoquée pour peut-être, à un moment donné, se déconfiner, de se dire peut-être ça va stigmatiser encore certaines personnes. Alors, moi, je suis bien placé, je n'ai pas de smartphone. Et ça va peut-être poursuivre une certaine forme de distanciation sociale entre les personnes qui auraient des smartphones, les personnes qui ont un smartphone avec une appli installée dessus et qui l'utilisent, les personnes sans smartphone, etc. etc.
Mais ton téléphone suffit.
Peut-être... Okay. Ouais, peut-être à ce propos, on a fait, avant d'écouter une petite musique qui nous a été préparée par Fred, mais à ce propos, on a passé hier une chronique qu'une copine nous avait envoyée sur cette question-là et qu'on vous invite à réécouter. C'est sur le podcast de l'émission du midi d'hier. Et puis, elle va continuer à se renseigner sur cette question-là et à faire des petites chroniques régulières sur Radio Sans Nous.
Cool. Eh bien, merci à vous. Bon après-midi.
Salut, les petits.
Bon après-midi. Eh ben, on écoute une petite musique et puis on se retrouve après.
Salut, les petits cululus. C'est Pouldo. Et vous êtes bien sûr Radio Sans Nous. Jeudi soir, c'est scène ouverte. Tu peux envoyer ton son à Radio sans nous @cma-pdll.org et je compte sur vous pour foutre le feu.
Vous êtes un menteur, un hypocrite et un faux son.
Et bien peut-être pour dire que du coup la chronique dont je parlais tout à l'heure, on va la réécouter en fin d'émission sur la question de la surveillance via les téléphones, etc. et de comment l'État commence à réfléchir à nous, enfin continue à réfléchir à nous fliquer. Et peut-être vous aviez des d'autres sujets sur lesquels vous aviez envie de réagir sur la question des médias, du libre, etc.
Ouais, je peux je m'étais interrompu, enfin je voulais pas aller là-dessus, mais je vous proposerai bien une toute petite réflexion qui est parce que les élections municipales sont pas terminées, voire même elles vont peut-être recommencer, et on peut agir politiquement aussi là-dessus, c'est-à-dire que imaginez à un moment donné qu'une collectivité locale propose, alors pas elle directement, mais s'appuie sur une asso, sur une entreprise d'économie sociale et solidaire, pour proposer à tout le monde d'avoir une adresse mail dont on sait qu'elle sera pas fliquée. Donc c'est pas l'adresse mail municipale là dont je parle, hein, c'est faire en sorte, se donner les moyens que chaque habitant d'une commune ait une adresse mail qui sera pas une adresse Gmail et qui sera pas pouillée comme elles se font pouiller par Google, permettre à chacun d'avoir une sorte de domicile numérique, un petit bout de cloud dans lequel je peux partager mes données avec d'autres, etc. C'est quelque chose qu'il faut à mon avis véritablement pousser, c'est-à-dire que on ne se sortira de cette situation qu'à partir du moment où on décentralisera. Régis, tu faisais référence à la map numérique là, qu'on pousse et qu'on appelle Zurit. C'est pas pour rien qu'on a choisi le terme à map. Hein. Normalement, c'est les associations d'aide au maintien de l'agriculture paysanne. Mais c'est la même logique. C'est il n'y a pas de pesticides. Et surtout, on insiste sur la relocalisation des données et des échanges. C'est-à-dire que ces serveurs, ils peuvent être alors soit mis à disposition par une collectivité locale ou hébergé par une entreprise ou une association, mais localement, il peut y avoir des permanences menées. Enfin, ça peut être l'épicerie numérique. Je viens, je rencontre quelqu'un d'humain qui va m'aider à ouvrir mon compte, m'aider à ouvrir mon adresse mail que je pourrais aller voir parce que ils vont faire quelques permanences une ou deux fois par semaine pour mieux comprendre comment ça fonctionne, rencontrer éventuellement d'autres usagers, décider ensemble des outils qui seraient vachement intéressants d'ajouter dans l'espace dans lequel on est. Enfin, c'est aussi l'occasion, je pense, il y a pas mal de choses à repenser là, j'espère en tout cas, après la période de confinement, mais notre rapport au numérique et les outils numériques qu'on utilise sont véritablement à repenser, et eux aussi on peut les relocaliser mais presque quartier par quartier, quoi.
On avait une réaction sur le chat à ce que tu disais, Pascal, qui était qu'il faut pas oublier là-dedans que le flicage, il n'est pas fait que par les géants du numérique. Et du coup, ouais, pour éviter ça, il faut aussi des garanties de sécurité pour pas se faire intercepter ces données,
ouais,
ou que les serveurs soient saisis par les autorités. Enfin, ouais, du coup, la surveillance, elle n'est pas une... ou le...
Ouais, alors sur la question par les autorités, bah ouais. Après, franchement, je réinsiste sur les chatons pour avoir fait l'expérience de on demande à bénéficier. Alors c'est pas un label chaton, mais en tout cas on fait en sorte de remplir les conditions pour faire partie des chatons. C'est copieux, quoi. C'est pas n'importe qui. On n'ouvre pas un serveur dans son salon et on le propose pas aux gens. Il y a des garanties vraiment importantes. Donc c'est comment on s'entoure de ces garanties-là. Et clairement, si le service dans lequel vous allez est un chaton, vous en avez déjà pas mal de ces serveurs, de ces garanties.
Oui. Non, mais ce que tu évoques, Pascal, c'est des outils alternatifs qui permettent de se protéger. Après, on sait que dans une société de contrôle et dont le contrôle se renforce là, avec ce qu'on vit en ce moment, il n'y a aucune garantie à 100%. Un serveur peut être saisi.
Enfin, de toute façon, bien sûr.
Il peut se passer plein de choses. Et effectivement, on en parlait sur la dernière émission autour de la question de la société du contrôle, de la biopolitique. Effectivement, ce que nous vivons de particulièrement exceptionnel là depuis un mois, renforce en tout cas la logique d'une société de contrôle par le numérique ou par d'autres moyens de fait.
Oui, et peut-être, du coup, les réactions sur le chat, c'était un peu de dire le seul moyen de pas se faire piquer ses données par les autorités, c'est bien d'avoir des serveurs ailleurs qu'en France. Et c'est pas une garantie absolue, mais ça complique le travail. Et peut-être dans les autres alternatives qui existent et dans les autres projets qui visent à essayer de travailler sur cette question des données et de comment on peut choisir au mieux ce qu'on laisse traîner sur soi-même sur Internet globalement dans les questions numériques. On peut aussi évoquer quand même le projet Tails et Tor qui travaille sur ces questions-là, quoi.
Mmh. Oui, bien sûr. Mais je réinsiste quand même. Alors effectivement, il y a toujours ce risque de se faire saisir son serveur, etc. Mais franchement, enfin, la solution, elle est par la décentralisation de l'Internet. Oui. Si on arrête tous de mettre nos données au même endroit, déjà, on va résoudre une bonne partie du problème. Il faut juste se rappeler que c'est alors même s'il n'y a pas que les géants du numérique, c'est quand même eux qui sont archi-dominants, et ils ne vivent que parce qu'on leur file nos données. Si on arrête de leur filer nos données, ils meurent. Ils ne font plus de bénéfices sur ces reventes-là. Donc, si on commence déjà par ça, on va faire un grand pas. Et puis surtout, on va remettre du lien social dans le numérique. Enfin, c'est terrible de ne pas pouvoir parler à un humain quand on a un problème parce que son mail ne marche plus ou quoi que ce soit, et que ce soit ou un chat robot ou enfin, il n'y a même plus de numéro à appeler. Voilà. Là, rien que là, on remet du lien social.
Et ok. De toute façon, la remarque, elle n'était pas pour. C'était plus en complément et pas forcément pour s'opposer à ce que tu
dis. Bien sûr. Oui.
Tout à fait.
Et je ne sais pas si, Pascal, puisque tu devais nous quitter là dans quelques minutes, ouais. Si tu as un ou deux éléments à rajouter ou pour un peu conclure, ou pas conclure, ou pour mettre en perspective, ou pour, je ne sais pas.
Je peux faire part de l'expérience qu'on vit là avec ce Zurich ouvert à des assos. Alors on l'a un peu que dans ce qu'a fait Framasoft, la proposition qui a été faite, c'est de dire, c'est expliqué sur Zurich.net, on ouvre là pour le moment gratuitement pendant la période du confinement à des assos de solidarité ou à des collègues qui travaillent.
Des écoles.
Des écoles.
Donc pas mal du département et de la région.
Ouais, il y a pas mal. Ouais, en pédagogie coopérative, donc ICM44 apparemment a sacrément diffusé l'info parce que ça vient. Et ce qui est réjouissant dans cette histoire, c'est que bon, c'était pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'était pas un outil au départ conçu pour fonctionner dans les écoles. N'empêche que des collègues s'en sont emparés, plein de maternelles. Et ce que font les collègues avec cet outil est juste génial. Enfin, et ils nous poussent dans les questions qui nous demandent. Enfin, en tout cas, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Ben, on améliore chaque jour un peu mieux l'outil. Donc, ouais, dans cette période de confinement un peu compliquée, moi, paradoxalement, je traverse un moment vraiment très chouette parce que je croise des gens hyper motivés. Qui ont vraiment envie de faire bosser ces trucs-là. Donc je ne sais pas ce qui restera de tout ça après le confinement. Il y en a certains qui disent que de toute façon, eux continuent et que si c'est 70 balles par an, ils le paieront de leur poche ou ils paieront avec la COP. Il y a des réflexions à avoir avec les collectivités locales. Je faisais référence tout à l'heure à La Réunion, il y a une... Saint-Joseph, alors pour le coup, c'est là où est né Zurich. Ça veut dire la pieuvre en créole réunionnais, Zurich. Eux, ils ont décidé de proposer à toutes leurs assos un Zurich. Alors, c'est pas eux qui hébergent le serveur, c'est nous. Et puis, les CMA accompagnent les assos dans l'utilisation de ces outils. Mais c'est top parce qu'il y a les CMA locaux qui peuvent accompagner. Donc, voilà, c'est paradoxalement, c'est aussi un côté chouette de ce qui est en train de se passer. Et puis, ça permet.
Tu pourras peut-être revenir nous voir ou témoigner un peu de ce qui se passe dans les classes, ce qui se passe dans les écoles qui utilisent Zoom.net.
Ouais.
Tu parlais d'écoles maternelles. Enfin, toi, d'aller voir du côté des pratiques et comment, entre autres, les enfants s'emparent de ces outils.
Ouais, et puis je pense que, enfin, on est en train d'essayer. Là, ça y est, les choses se stabilisent un peu et puis les collègues ont pris ça en main, parce que ce qu'on n'avait pas mesuré au départ, c'est refiler les clés d'un Zurich. D'habitude, on fait ça en deux jours en présentiel. Là, on est obligé de le faire à distance, donc c'est quand même sympa. Et puis après, les collègues, il faut quand même qu'ils expliquent aux parents ou aux élèves comment ça fonctionne. Donc il y a eu un petit temps d'adaptation. Maintenant, ça se tasse un peu, et puis on est en train de recueillir leurs expériences. Donc mieux que moi, je vous proposerai, soit on proposera à des collègues de venir témoigner directement chez vous, de savoir ce qu'ils en ont fait et comment ils ont vécu ce truc, ou je vous ferai parvenir des témoignages qu'on est en train de recueillir, parce que vraiment il y a des choses chouettes qui se passent.
Peut-être on peut quand même rappeler évidemment qu'on défend le fait que après tout ça, on espère bien que l'école se fera plus à distance.
Bien sûr.
Oui, clairement.
Je me dis, ça peut être un peu intéressant.
Oui, on n'en a pas parlé de tout ça. Je vous recommande alors j'ai pas l'adresse exacte, mais si vous cherchez les CMA Belgique, les copains du secteur école des CMA Belgique ont pondu un super article sur la continuité pédagogique, et l'illustration de l'article, c'est un ordi portable, enfin la photo d'un ordi portable avec écrit dessous, ceci n'est pas une école. Et c'est pas inintéressant de rappeler ça, parce que oui, c'est pas l'école, mais même pour les formations CMA ou autres, c'est...
Ouais, c'est ça, même avec nos stagiaires de nos formations.
Voilà, ça a franchement ses limites et ça remplacera jamais le présentiel. Alors,
vraiment, vous faites le lien excellent avec une prochaine émission sur le sujet.
Mais tout à fait, on est comme ça, nous.
C'est pro, tout ça. Eh bien, on va peut-être se terminer là, non ?
Moi, ça m'arrange de vous quitter maintenant.
Et enfin, terminer cet entretien, parce qu'on va peut-être une petite pause musicale, et puis après, réécouter
ce qui était passé. Le petit son, du coup. Ouais.
Voilà.
Un petit début d'enquête sur la question du flicage et de la surveillance en temps de corona, mais pas que.
Merci beaucoup en tout cas pour votre accueil.
Merci à toi.
Salut. C'est Pouldo. On va faire de la musique ensemble. Corbeille de fruits et gagne mon confinement. Dedans, il y a des oranges et des citrons. Il y a aussi des pommes, mais elles sont un peu vertes. Et quelques raisins secs. Bien sûr, ils sont dans un sachet. Sinon, ils tomberaient du panier. Ça égaye vraiment mon confinement.
Oh, radio sans nous, radio sans nous, Covid-19.
Ok, vous êtes avec Pouldo, et aujourd'hui, on va faire un son très particulier. On va mélanger info-coronavirus.gouv avec la première vidéo d'instrumental que j'ai trouvé sur YouTube. Ça va être du reggae, ça va être très chill. Ok, vous êtes prêts ? Ministère des Solidarités et de la Santé actualise ses recommandations régulièrement pour protéger votre santé face aux infections. Il existe des gestes simples pour préserver votre santé et celle de votre entourage. Votre entourage. Lavez les mains très régulièrement, pincez ou éternuez dans son coudouet. Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades, utilisez des mouchoirs.
Corona, 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 corona.
Oh yo.
Corona, corona.
Sandou. Salut les auditeuristes. On est le 6 avril 2020 et on entame demain la 4e semaine de confinement. Et moi, je vais vous parler encore de surveillance numérique. Alors, comme j'écris et que j'enregistre à l'avance, cette chronique, elle a quelques jours de retard et c'est possible que de nouvelles infos soient arrivées depuis. À l'origine de cette chronique, une nouvelle tombée le 1er avril que j'ai d'abord prise pour une mauvaise blague. Avant de me rendre à l'évidence, le gouvernement français et Palantir sont en négociation pour mettre en place le flicage massif de la population. Si vous vous rappelez de la chronique de la semaine dernière, je vous disais que le gouvernement avait créé la commission CARE, notamment pour étudier la possibilité de tracer les interactions des personnes touchées par le virus et que Thierry Breton avait demandé aux opérateurs de téléphonie de fournir leurs données à la Commission européenne pour étudier notamment le respect du confinement. J'avais aussi indiqué qu'Orange filait les données de géolocalisation de ses clients à l'INSERM, notamment pour étudier l'évolution de l'épidémie et le respect du confinement. Je vous disais aussi que par moments c'était un peu le grand flou sur ce qui était prévu en France. Bon ben là ça avance et plusieurs hypothèses se profilent, dont celle des logiciels vendus par Palantir. C'est donc de ça que je vais parler aujourd'hui. Palantir, c'est une start-up états-unienne qui a été lancée grâce au financement de la CIA et qui est estimée aujourd'hui à plus de 40 milliards de dollars. La spécialité de Palantir, le renseignement numérique. C'est même la plus réputée dans le domaine. Aux États-Unis, elle bosse avec la NSA, la CIA, le FBI, mais aussi l'US Marines, l'US Air Force, et avec les flics de plusieurs États auxquels la start-up fournit des applications de police prédictives. En France, Palantir bosse pour la DGSI depuis 2016 et le contrat a été renouvelé pour 3 ans en novembre 2019, faute d'avoir trouvé des boîtes françaises capables de fournir le même boulot. Même le consortium de 23 entreprises de flicage du numérique n'a pas réussi à proposer une solution aussi efficace du point de vue des services de renseignement. Et si la DGSI a choisi Palantir pour nous surveiller, c'est que cette boîte a de quoi faire tourner la tête à tous les maniaques du contrôle et de la surveillance des populations. Son logiciel phare, celui qui l'a hissé au rang de numéro 1 des boîtes de flicage numérique, c'est Gotham. Une plateforme logicielle capable d'intercepter des milliards et des milliards d'octets de données hétérogènes, parfois chiffrées, depuis des sources extrêmement différentes. Forums internet, Telegram, réseaux sociaux, e-mail, SMS, mouvements sur les comptes en banque, bases de données des plaques minéralogiques, géolocalisation, appels téléphoniques, contacts, etc. Gotham analyse ces données, qui sont donc à la base très disparates, les croise, les synthétise et les met en forme de manière à ce qu'elles soient compréhensibles pour les flics des services de renseignement. Pour schématiser, ça donne une fiche par personne surveillée avec accès à toutes les informations qui ont pu être interceptées et une cartographie des relations avec ses proches et ses contacts, qui eux-mêmes héritent d'une fiche donc. Les fiches et cartographies sont bien sûr mises à jour au fur et à mesure que de nouvelles données sont interceptées et tout ceci permet aux services de renseignement d'accroître leur capacité de surveillance du côté de la quantité des données bien sûr, mais surtout du côté de l'analyse de celles-ci. Palantir fait régulièrement des démonstrations de son logiciel dans la presse. Au magazine Economic Challenge, il présente le travail de Gotham sur un projet d'attentat fictif à Madrid. Challenge qualifie la démonstration d'assez bluffante et écrit ceci. Pour chaque suspect, Gotham rassemble toutes les informations disponibles sur des pages de type Wikipédia. Tout y est, numéro de téléphone, photo, adresse mail, carte des appels passés, plaque minéralogique des voitures, relations connues. Ça a l'air facile, mais pour aboutir à cette page, le logiciel traduit en temps réel des dizaines de types de données différentes, explique la spécialiste. En quelques secondes, l'enquêteur peut remonter le fil d'un réseau terroriste, le matérialiser en un schéma qu'il partage dans un dossier commun avec d'autres enquêteurs. Chaque agent de renseignement peut compléter ou modifier le schéma en fonction de ses autorisations d'accès. Et si Palantir essaye de redorer son blason en proposant aussi des outils de lutte contre la fraude fiscale ou de coordination de secours lors de catastrophes naturelles, son credo, c'est bien le flicage et la répression. Par exemple, la boîte, elle bosse avec l'Agence américaine de police et de contrôle des frontières et fournit une plateforme qui facilite les expulsions. En août 2019, les logiciels développés par Palantir ont permis d'établir des listes de personnes sans papier à arrêter en respectant des quotas très précis. L'opération Mega avait par exemple permis d'arrêter 443 personnes en seulement 90 jours. Et parmi les personnes visées par les services américains, les mineurs non accompagnés. Ah, et j'allais oublier, Peter Thiel, qui est cofondateur de Palantir, c'est maintenant le conseiller numérique de Donald Trump à la Maison Blanche. Bon, ça c'était pour le CV de Palantir. Vous savez maintenant ce que cette boîte est capable de faire. Alors pour le moment, on ne sait pas ce que magouille le gouvernement et Palantir. On sait que le gouvernement étudie des hypothèses de surveillance sur plusieurs niveaux. 1. La mise en commun et le suivi des données scientifiques et médicales liées au virus et à l'évolution de l'épidémie. 2. Le backtracking, donc pour chaque nouveau cas, retrouver des personnes qui ont été en contact avec les malades au cours des deux dernières semaines. Et 3. La surveillance des mesures de confinement. Et Palantir se dit capable de proposer des logiciels sur ces trois niveaux. Sur le suivi de l'épidémie, Palantir est en pourparlers avec l'administration publique des hôpitaux de Paris et sous couvert de prédire l'évolution de l'épidémie et les pénuries de matériel et de médoc, ce sont notamment les dossiers des patients, jusque-là protégés par le secret médical, qui pourront être décortiqués par les logiciels de Palantir. Si les négociations se concrétisent et si la PHP en est satisfaite, la solution proposée par Palantir sera étendue à l'ensemble des hôpitaux français. Les deux autres niveaux, le backtracking et la surveillance du confinement, sont étudiés a priori plutôt pour la sortie de confinement. Et on ne sait pas ce que Palantir propose, mais on va se pencher sur ce que prépare le gouvernement. Même si encore une fois, on ne sait pas ce que va nous pondre ce gouvernement, les opérateurs de communication et les boîtes spécialisées dans la surveillance. On sait donc que la surveillance numérique est déjà en cours. La loi renseignement, couplée à l'état d'urgence adoptée le 23 mars, le permet. Par exemple, des données de géolocalisation sont déjà utilisées. C'est ce qui a permis, entre autres, de savoir combien de Parisiens et de Parisiennes étaient partis se confiner dans leur résidence secondaire. On sait aussi qu'Orange refile les données de géolocalisation de ses clients à l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale et que SFR donne les siennes à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique. L'idée du gouvernement est d'aller plus loin et de coordonner tout ça pour ce qu'ils appellent la phase de déconfinement progressif. L'idée qui a le plus fait son chemin, tant au niveau du gouvernement qu'en termes d'acceptabilité, c'est celle du backtracking. Il s'agit de ficher les personnes qui ont ou qui ont eu le coronavirus, de récolter leurs données numériques et de retrouver les personnes avec qui elles ont été en contact dans les deux dernières semaines. Dans le cadre d'une hypothèse dite de déconfinement progressif, l'idée, c'est bien sûr d'imposer des mesures de confinement à ces contacts. C'est grave en termes de fichage, de flicage, de respect de la vie privée et de mesures coercitives. C'est aussi grave en termes de prévention et de compréhension de l'épidémie. Peu importe que tu aies pris les précautions nécessaires quant au virus, peu importe les risques que tu sais avoir pris, si ton téléphone a approché le téléphone de quelqu'un qui a chopé le coronavirus, tu es confiné. Et c'est grave aussi pour les risques de stigmatisation que de telles pratiques induisent. Le dernier niveau, et pas des moindres, c'est celui du suivi du confinement. De la même manière, on ne sait pas exactement comment ça va se passer et qui ça va concerner. Études massives des données de géolocalisation, suivi de la géolocalisation des personnes malades, installation d'une appli comme en Pologne pour vérifier que les gens sont dans leur lieu de confinement, on n'en sait rien et on ne sait pas non plus si les sanctions actuelles, qui sont déjà bien aberrantes, sont amenées à évoluer.
Of times 14284 page 3.92 should read Mini-Prod forecast increased chocolate ration in April 1984 from 20 to 25 grams per week.
Pour résumer donc, Le gouvernement planche sur 3 niveaux de surveillance numérique. La surveillance des données de santé, le backtracking et la surveillance du confinement. Et comme je le disais tout à l'heure, Palantir se dit capable de répondre à ces 3 niveaux et est en pourparlers avec le gouvernement français. Mais ça ne veut pas dire que c'est Palantir qui va être choisi. Le gouvernement, qui se souvient que les boîtes de surveillance numérique n'étaient pas très contentes que les services de renseignement aient choisi Palantir, a lancé une mission pour étudier les options et est en train de démarcher dans tous les sens pour voir ce que ses collabos du flicage peuvent proposer. Pas de doute qu'Atos, Thales, Engie, Ineo et bien d'autres encore se tiennent prêts pour ne pas rater le coche de ce nouveau virage sécuritaire. Les grosses boîtes ne sont d'ailleurs pas les seules à lorgner sur ce marché qui s'ouvre. Plusieurs startups tentent ainsi de placer leurs billes. Certaines proposent déjà leurs applis en téléchargement et d'autres utilisent des mouchards pour récupérer nos données de géolocalisation, comme l'a fait ce week-end GeoForecast, qui a fourni à la presse des chiffres censés illustrer un relâchement du confinement. Alors que va choisir le gouvernement ? Est-ce qu'il n'y a que les gens qui auront un smartphone avec la géolocalisation activée qui auront le droit de sortir ? Est-ce qu'on va être survolé par des drones qui essaieront de communiquer avec nos smartphones? Et qu'est-ce qu'ils feront quand on n'aura pas de smartphone? Et si on est détecté comme personne à risque ou censé être en quarantaine? Est-ce que les drones prendront notre température? Est-ce que les entreprises du flicage de masse imaginent coupler ça avec la reconnaissance faciale? Est-ce que la téléverbalisation va être généralisée? Et qu'est-ce qui restera de tout ça après cet état d'urgence-là? Plein de questions, et peut-être que j'extrapole, mais en tout cas, ça donne le vertige.
Building ships and boats, oh yeah. Some are building monuments, others jotting down notes. Everybody's in despair, every girl and boy. But when Quinn the Eskimo gets here, everybody's gonna jump for joy. Oh yeah,
come on,
one more time, yeah.
Come on, with it.
Yeah, we go.
To go just like the rest, I like my sugar sweet, yeah. Jumping things and making hay just in my cup of tea. Everybody beneath the trees feeling pigeon on a limb. But when Quinn the Eskimo gets here, tell a pigeon gonna run to him.
don't lead me on, girl. But if you want me, show me that you love me. And when I'm feeling blue, there is up to you. There's just one thing that you should do.
Only let him down and hide. C'est l'émission du midi, on écoute la playlist de Gavroche et après ce sera la playlist de Gwen.
Thank you.
really think I am. You raise my taxes, freeze my wages, and send my son to Vietnam. You give me second-class houses and second-class schools. Do you think that all colored folks are just second-class fools, Mr. Backline? I'm gonna leave you with a backlash blue. When I try to find a job to earn a little cash, all you got to offer is your mean old white backlash. But the world is big, big and bright and round, and it's full of folks like me who are black, yellow, beige and brown, Mr. Backlash. Mr. Backlash, Mr. Backlash, just what do you think I got to lose?